Chapitre 4. Quelques poussins en voyage. Ce n'est que vers 23 heures, la veille du départ, qu'elle a senti son ventre s'alléger après le déjeuner de midi. Son estomac n'avait plus l'habitude. Mais comme c'était bon! Julie a passé la soirée à rassembler quelques affaires pour le voyage. Elle a trouvé un sac en plastique solide pour y fourrer des jouets et quelques livres de contes pour enfants. Depuis son réveil, elle a vérifié deux fois le contenu des bagages pour être sûre de ne rien oublier. Elle a du mal à imaginer que l'homme viendra la chercher dans une heure pour l'emmener à l'autre bout de la France. Depuis le temps qu'elle a envie de voir la mer et de la montrer à Ludovic. Elle n'a pas beaucoup dormi. Elle en serait presque joyeuse. Julie s'emballe comme toujours, et ce, malgré le risque de déchanter, comme chaque fois qu'un type lui fait de belles promesses. Après tout, qui dit qu'il viendra? Qui dit que ce n'était pas que du vent, des paroles en l'air, pour faire l'intéressant ou obtenir ses faveurs? Certes, mais de faveurs, il n'en a obtenu aucune, et il semblait sérieux. Reste l'option, trafic vers l'Asie. Quel balai sans état d'âme, refusant la médiocrité d'une vie sans rêve. Le petit dort encore. Elle le réveillera au dernier moment. Avec un peu de chance, il se rendormira dans la voiture. Elle a préparé le siège auto, un biberon et quelques gâteaux secs. Tout est là, dans l'entrée. Elle tourne en rond dans son petit studio. Il reste 45 minutes avant l'heure fatidique qui lui confirmera que tous les hommes sont des goujats. Ou pas. Ou pas. Ou pas. Ou pas, se passe-t-elle en boucle pour se convaincre. Jérôme n'a que peu dormi. Il réfléchit. Fait-il le bon choix en laissant son cabinet et ses patients à une débutante? Comment faire autrement? Ne sont-ils pas plus en danger avec lui qu'avec une jeune femme aux neurones hyperactifs et à l'écoute du moindre symptôme tellement elle redoute d'en louper un? Pas comme les siens de neurones, endormis par l'alcool et la fatigue. Par la tristesse surtout. Il fait donc le bon choix. Son ensemble de bagages de marque trône dans l'entrée, bien rangé. Sa mallette de médecin en cuir les accompagne. Il ne part jamais sans elle. Une urgence, un jour qu'il ne l'avait pas avec lui, a suffi à le convaincre de ne jamais la quitter. Son père ne devrait pas tarder, il est généralement ponctuel. Il lui a annoncé 6h30. Il est 6h15 quand Caroline sort de sa chambre, les cheveux en bataille et les yeux gonflés. Elle a dû pleurer une partie de la nuit dans son oreiller, dernier relent d'angoisse avant le démarrage. Elle lui sourit vaguement et disparaît dans la salle de bain. Jérôme lui prépare un petit déjeuner complet, Nutella compris. Rien de tel pour redonner le moral à une femme. Ça fonctionne même avec lui, alors. Et puis, la fille n'est pas assez épaisse pour lui sortir l'argument du régime. Elle apparaît une dizaine de minutes plus tard, habillée, les cheveux mouillés retombant sur les épaules. Elle s'est maquillée comme elle a pu, mais les stigmates de la veille sont toujours visibles. Elle commence sa consultation dans 2 heures. Aucune chance de les faire disparaître d'ici là. Tant pis, elle composera. Au plus curieux, elle dégainera la conjonctivite. Quelques minutes plus tard, le 4x4 gris pénètre dans la cour. Sur les gravillons, les larges pneus manquent de discrétion. Paul sonne puis entre sans attendre dans le cabinet médical. Il appelle son fils du bas de l'escalier. Jérôme l'invite à monter. En entrant dans la cuisine, Paul est surpris par la présence de la jeune femme. « Caroline, ma remplaçante, » explique son fils. « Je t'ai dit que je lui prêtais la maison ?»« Ah oui, c'est vrai. Bonjour, Caroline. Vous n'avez pas l'air en grande forme. »«
Bonjour, monsieur. Vous avez le sens du compliment ?» dit-elle en souriant vaguement à Jérôme. « J'ai une conjonctivite. »«
Une conjonctivite ? Et moi, je suis Fred Astaire, » répond Paul en souriant.
« Elle est un peu anxieuse, c'est son premier emplacement, » précise Jérôme.
« Il y a du réseau pour les portables, là-bas ?»«
C'est le bout du monde, mais quand même. Au pire, il y a le fixe. Il est branché à l'année. Tu n'avais pas prévu de te déconnecter totalement ?»«
Quand on est médecin, on ne se déconnecte jamais totalement. »«
Bon, tu es prêt ?»«
Oui. Tu veux un café ?»«
Non, on va y aller. » Jérôme lance quelques dernières recommandations à sa remplaçante, qui commence rapidement à montrer des signes de rechute émotionnelle. Il préfère donc abréger l'instant, le coup sec du sparadrap pour éviter le tiraillement interminable. Elle est presque collée à la vitre de la cuisine quand les deux hommes s'installent dans la voiture comme si elle les suppliait de rester. Elle les supplie. «
Qu'est-ce que tu lui as fait ? » demande Paul en claquant la portière.
Je l'ai prise comme remplaçante.
C'est tout.
C'est sa première fois.
Ah, la première fois, reprend Paul en souriant.
J'espère que ça ira, s'inquiète Jérôme.
Pourquoi ça n'irait pas? Elle n'a pas gagné son diplôme à la kermesse.
Papa, la kermesse, c'est d'un autre âge. Elle a peur de passer à côté de quelque chose de grave.
Les nouveaux diplômés ont généralement la tête bien pleine, non? Ils pêchent plus par excès que par défaut. Tu auras juste 12 résultats de scintographie, 3 IRM et 53 analyses de sang à classer à ton retour.
Certes. Détends-toi. C'est pour ça qu'on part en Bretagne.
Paul garde le silence un instant. Il réfléchit.
Doit-il lui annoncer qu'il passe chercher Julie et son petit?
Le prévenir serait la moindre des choses, mais il sait que son fils va mal réagir, se fâcher, lui en vouloir. S'il attend d'être chez la jeune femme, Jérôme ravalera sa colère en garçon bien élevé, et le temps du voyage suffira peut-être à dissiper sa rancœur. Il choisit cette option, en sachant pertinemment que le détour qu'ils devront faire pour passer prendre Julie va attiser la curiosité de son fils. Cela ne tarde pas. À peine sont-ils sortis de l'autoroute que Jérôme l'interroge.
« Tu peux me dire où on va ?»«
Dans un presbytère. »«
Pourquoi faire ?»«
Une confession de dernière minute. »«
Tu te fous de moi ?» s'énerve Jérôme.
« Pas loin, mais je repousse au maximum le moment de te dire qu'on passe chercher quelqu'un qui nous accompagne. »«
Qui ça ?» aboie le fils.
« Une femme charmante. »«
Tu ne m'avais pas dit que tu avais rencontré quelqu'un ? Tu aurais au moins pu me demander mon avis ?»«
C'est tout récent, » s'excuse presque Paul.
« C'est-à-dire ?»«
Une semaine. »«
Une semaine ? Et tu l'invites à venir passer des vacances avec nous à l'autre bout de la France ?» explose Jérôme.
« Pourquoi pas ?»«
J'ai pas envie de tenir la chandelle, moi. Je suis venue pour autre chose. »«
Ne t'inquiète pas, ce n'est pas ce dont il s'agit. Elle pourrait être ma fille. »«
Et pourquoi vit-elle au presbytère ?»«
Parce que c'est là que la commune a installé des logements sociaux. »«
Ah, parce que c'est un cas social, en plus. »« Punaise, mais... » Qu'est-ce qui te passe par la tête? C'est depuis que Marlène t'a quitté? Tu te rachètes une conscience en aidant les pauvres?
Je n'ai aucune conscience à racheter et cette fille m'a touchée, c'est tout.
Où tu l'as trouvée?
Au supermarché.
Non mais je rêve.
On arrive. Reste dans la voiture si tu veux. Moi, je vais la chercher.
Paul attend quelques instants sur le perron après avoir sonné. Julie patiente de l'autre côté de la porte sans faire de bruit. Laisser passer quelques secondes pour ne pas donner l'impression qu'on attendait. Après avoir compté jusqu'à 10, elle ouvre enfin.
« Ah, c'est vous ?»
dit-elle en feignant la surprise.
« Julie, ne faites pas semblant d'être étonnée, vous n'êtes pas crédible. Vous êtes prête ?»«
Je ne sais pas, j'hésite encore. »
Elle se tortille pour essayer de voir par-dessus l'épaule de Paul. Jérôme observe la scène, l'air de rien. Il compte sur le reflet du pare-brise pour ne pas se faire trop remarquer.
Ça, une femme charmante?
C'est une gamine à l'allure pitoyable, un jean usé, un t-shirt moulant, mettant en valeur des seins ronds et arrogants.
Certes, l'arrogance d'une paire de seins n'est pas forcément un défaut en soi. Mais cette fille n'était pas prévue au programme. Des emmerdes en perspective, il le sait, il le sent.
Votre fils est là? Poursuit Julie. Il n'a rien dit?
Il rumine dans la voiture. « Ne vous inquiétez pas, il a le rumen spacieux, ce sera vite digéré. »«
Ah non, non, si je dérange, je ne viens pas. De toute façon, j'hésitais. »«
Pourquoi ?»«
Parce que ça ne se fait pas de partir avec un inconnu à l'autre bout de la France. »«
Ok, comme vous voudrez, » répond Paul en tournant les talons.
« Attendez !»
s'écrie Julie dans la seconde qui suit.
« Déjà ?»«
Déjà quoi ?»
Vous auriez au moins pu me laisser le temps de démarrer pour me donner le plaisir de vous voir dans le rétroviseur me faire de grands signes en courant derrière la voiture. Ça aurait flatté mon ego.
Oui, bon, ça va. Je viens.
Chouette.
Vous n'êtes pas un homme à dire chouette. Ça ne colle pas avec votre style.
Comme votre tenue au restaurant hier.
Arrêtez de vouloir être raccord avec ce qui est conforme ou pas. C'est ridicule. Si j'ai envie de dire chouette, je dis chouette.
Et votre fils ?
Il sait dire chouette aussi.
Je ne parlais pas de ça. Il est prêt?
Il dort encore. Je pensais le réveiller au dernier moment. Avec un peu de chance, il se rendormira.
Où sont vos valises?
Là,
répond Julie en désignant un coin de l'entrée.
Je n'ai pas grand-chose.
En effet, s'étonne Paul.
Il prend soudain conscience de la précarité dans laquelle vit Julie. Votre siège auto est encore aux normes?
Évidemment que non. Mais c'est cher un siège auto. De toute façon, je n'ai que celui-là.
Ok, je charge. Vous pouvez fermer les volets et aller chercher le petit. Plus tôt on partira, moins longtemps il ruminera, mon bovin de fils.
Paul saisit le gros sac en plastique, le pose sur le siège auto, soulève le tout, puis se dirige vers le 4x4 en faisant signe du menton à Jérôme de lui ouvrir la portière à l'arrière.
« Qu'est-ce que c'est que ce siège auto? Elle a quel âge ?» dit le jeune homme.
« C'est pour son fils. »
« Ah parce que en plus, il y aura un môme dans nos pattes. Si t'avais besoin d'une poule, t'aurais pu la prendre sans poussin. »
« Je n'ai pas besoin d'une poule, et la poule, c'est plutôt moi dans l'histoire. À prendre sous mon aile quelques poussins fragiles pour leur faire voir la mer, et tu en fais partie, alors ferme un peu ton bec. On a tous droit au bonheur sur cette terre, et un des miens est d'en offrir un peu à cette gamine et à son gosse. »
Jérôme retourne à l'avant et claque la portière bruyamment. Ce n'est pas ainsi qu'il avait envisagé son séjour en Bretagne, flanqué d'une fille de 20 ans à l'allure infréquentable et de son rejeton de 3 ans qui ne peut qu'être insupportable et crier à tue-tête à longueur de journée comme tous les gosses surexcités qu'il croise à longueur d'épidémie dans son cabinet de campagne. Décidément, entre une remplaçante incertaine et une expédition qui s'annonce plus que douteuse en termes de tranquillité, Jérôme n'est pas prêt d'abandonner le whisky pour trouver le sommeil. La portière à l'arrière est restée ouverte et Julie dépose Ludovic, qui s'était pendu mollement à son cou, à moitié endormi. Elle l'attache dans son siège auto pendant que Paul ferme l'appartement à clé. Le voyant s'acharner sur la serrure, elle le rejoint pour lui délivrer les secrets de cette porte à la clenche capricieuse. Jérôme, qui n'a pas daigné se retourner jusqu'à présent, jette un œil sur l'enfant qui est en train de le fixer d'un regard à la fois intrigué et absent, encore imprégné de sommeil. Cet enfant est touchant dans sa fragilité de petit être tout juste sorti des limbes de la nuit. Puis il serre contre lui son bout de chiffon qui fait office de doudou et prend son pouce en tournant la tête vers la vitre et les paupières lourdes. Paul prend place au volant et Julie à l'arrière aux côtés du petit.
« Jérôme, je te présente Julie. Julie, mon fils Jérôme. »
Les gens bien élevés se disent généralement « bonjour », rappelle Paul sans affect apparent.
Le bonjour échangé par les deux parties adverses ne laisse guère présager un voyage des plus harmonieux. Celui de la jeune fille est hésitant et distant, celui du médecin glacial et renfrogné.
Ça promet.
Ils ont démarré depuis quelques minutes et Julie se demande déjà si elle a bien fait d'accepter l'invitation. Si l'ambiance continue d'être désastreuse, quels bénéfices lui apporteront ses vacances ? Elle s'accroche à l'idée de faire voir la mer à son fils, qui n'a pas demandé à vivre dans 25 mètres carrés avec des jouets trouvés chez Emmaüs et une mère qui bataille au quotidien pour lui assurer le minimum vital. Alors, elle aurait eu tort de ne pas sauter sur l'occasion. L'autre finira bien par digérer.
Ou pas. Mais ce n'est pas son problème.
Julie a appris à ne pas gérer ceux des autres. Elle en a bien assez pour son compte. Elle prend son pull, le roule en boule et le cale sous sa tête contre l'antique siège auto dans lequel son fils dort à nouveau paisiblement. Le bruit du supermarché la saoule à longueur de journée et les fréquentes nuits sans sommeil, hantées par les craintes et contraintes du quotidien, l'épuisent. Alors Julie se laisse aller et s'endort rapidement. Paul jette régulièrement un œil dans le rétroviseur. Il prend soudain conscience de l'incongruité de la situation et comprend les ruminations de son fils. Cependant, Paul sent que cette fille lui fera du bien et que cela sera probablement réciproque. Il en a assez de réfléchir pendant des jours, des semaines, des mois entiers avant d'agir. Les décisions coup de tête ont l'avantage de la spontanéité et de la sincérité. Aider une personne en difficulté à traverser la rue met du baume au cœur pour l'heure qui suit. Bizarrement, Paul a l'intuition qu'avec Julie, ce sera pour un bout de vie. Il est parfois des impressions que l'on n'explique pas. Peut-être qu'en ce moment, il se sent plus libre et heureux de l'être. Julie en bénéficie parce qu'ils se sont rencontrés au bon moment et au bon endroit. Elle qui passe sa vie à se retrouver au mauvais endroit, au mauvais moment. En traversant les Vosges par le tunnel de Sainte-Marie-aux-Mines, Paul se surprend à observer dans le rétroviseur les visages de Julie et de son enfant, striés par le défilement lumineux des néons. En quittant le tunnel, ils bifurquent vers un grand supermarché de la zone industrielle de Saint-Dié. À son fils, qui lui demande pourquoi il s'arrête déjà, il explique qu'il ne supporte pas l'idée de faire voyager un enfant de 3 ans dans un siège non sécurisé. Il s'en voudrait s'il arrivait quelque chose. « Tu restes pour veiller sur eux ou tu viens te dégourdir les jambes ?» demande-t-il à son fils. « Je viens, » répond Jérôme comme une évidence. « Tu peux aller chercher un caddie, le siège auto sera encombrant. Tu es sûr de ce que tu fais ?»« Parce que toi, tu es toujours sûr de ce que tu fais dans ta vie. » Non, évidemment, mais je prends des précautions. Qu'est-ce que je risque à acheter un siège auto à une fille qui n'a pas les moyens d'en payer un pour son môme? Qu'elle ait flairé le bon filon et qu'elle te plume sans même que tu t'en aperçoives. Allez, allez, de l'argent j'en ai, et elle ne me fera pas perdre la tête si c'est ce qui t'inquiète. Me changer les idées peut-être, mais pas me faire perdre la tête. Elle est trop bien calée sur mes épaules. Je n'éprouve pas d'amour passionné pour cette fille. C'est celui-là qui fait faire n'importe quoi. Alors, tu ressens quoi pour elle? De la tendresse. C'est un joli sentiment, la tendresse. Tu devrais essayer, Jérôme. Et depuis quand tu connais ça? Depuis que j'ai croisé cette fille. Une révélation. La flamme mystique des apôtres qui te choisit soudain. Tu la connais depuis 1 semaine! Et alors? L'évidence n'a pas besoin de beaucoup de temps pour sauter aux yeux. C'est généralement instantané. Et tu dis que tu n'es pas amoureux? Non, je crois que je n'oserais même pas la toucher. J'aurais peur de l'abîmer. Elle n'a pourtant pas l'air très fragile. Elle ressemble à ces Marie Couche-toi-là qui, à l'âge où d'autres jouent encore à la corde à sauter, sont déjà des filles à sauter tout court. On voit le résultat. Enceinte à 16 ans. Les apparences sont parfois trompeuses. Je suis persuadée que cette fille a besoin d'un édredon bien douillé pour se réfugier dans un cocon de douceur et d'insouciance. Tu vois? Tu parles toi-même d'édredon. Je te dis qu'elle va te plumer. La vie est légère comme une plume quand le souffle qui la porte est animé d'amour et de tendresse. Alors, je veux bien me délester de quelques plumes. C'est de qui, ça? Demande Jérôme. De moi. De toi? Répond-il en rigolant. Est-ce que tu peux être désobligeant? Au moins, elle t'inspire. C'est déjà ça. Et si ça se passe mal en Bretagne? La maison n'est pas immense, on va être les uns sur les autres. Et si ça se passe bien? Si on arrive à vivre les uns avec les autres? Je ne vois pas bien ce qui pourrait se passer avec une gamine que je ne connais pas, qui sort tout droit de l'adolescence, si toutefois elle en est sortie, encombrée d'un gamin qui pourrait être son petit frère. N'enferme pas les gens dans des cases. Ce n'est pas parce qu'elle est pauvre et toute jeune mère qu'elle est immature et inintéressante. On en reparle au retour, propose Jérôme, cynique. Exactement. En attendant, elle passe beaucoup de temps à lire des livres. Et toi? Ça fait combien de temps que tu n'as pas ouvert un bouquin?
Depuis avant-hier. Un gros bouquin épais et lourd à la couverture rouge.
Le Vidal, je sais. Mais des romans, des essais, des trucs pour s'évader et s'ouvrir.
Je n'ai pas le temps.
Bien sûr que si, tu as le temps. Tu ne le prends pas, c'est tout. Parce que tu penses que tu n'as besoin ni de t'évader, ni de t'ouvrir sur le monde.
J'ai besoin d'Irène.
Irène est morte, lui dit son père d'un ton sec. Jérôme se tait. Ces 3 mots sont toujours aussi violents, plusieurs mois après le drame. Son père les a prononcés froidement, et Jérôme sait pourquoi. Il sait qu'il a besoin d'intégrer la nouvelle, de l'imprimer sur son disque dur. Et que ce n'est pas en s'apitoyant sur son sort qu'on l'aidera. Paul a été bienveillant. Il l'a pris souvent dans ses bras les jours qui ont suivi le drame, l'a tenu par la main au cimetière, quand tout le monde était parti et que Jérôme s'enfonçait dans les petits cailloux de l'allée à force d'avoir stationné devant le trou. Mais depuis quelques semaines, il a changé de stratégie. Trop de compassion maintient son fils dans quelque chose de malsain. Ne vaut-il pas mieux parfois en passer par l'électrochoc si cela peut l'aider à regarder en face la dure réalité? Morte. Il n'y a que son père qui ose dire « morte ». Les autres préfèrent éviter la brutalité de ce mot. En usant d'euphémisme, en ne disant pas les choses comme elles sont, ils s'imaginent qu'elles n'existeront pas tout à fait, que leur réalité s'en trouvera atténuée. Parti? Où ça? Décédé?
Élégant, mais long, un peu pompeux, trop officiel. Au ciel, à d'autres. Morte, bah oui, morte. Le contraire de vivante. Comme la nature d'un tableau de maître, dont on a coupé les fleurs, cueilli les fruits, et qui ne garderont leur couleur et leur beauté qu'au travers de la toile du peintre. Comme les quelques photos d'elle qu'il a rangées dans un album entre les livres de la bibliothèque. Comme une nature morte accrochée à un mur de sa vie de médecin de campagne. Et il souffre le martyr de devoir enfoncer le clou qui portera ce tableau. Bien profond dans la chair, le clou. Une béance qui finira en cicatrice indurée, kéloïde, de celle qui tiraille à vie. Paul a trouvé un siège auto. Il a pris le plus cher, évidemment. Protection maximale. Ou arnaque bien conduite de la part du fabricant. En arrivant à la voiture, Julie ouvre la portière et s'adresse à lui. « Ludovic dort encore et moi, j'ai envie de pisser. Je vous le laisse. » En la regardant s'éloigner, Jérôme marmonne dans sa barbe de 3 jours qu'il a rarement vu une fille se comporter de façon aussi vulgaire. « Tu exagères. C'est toi-même qui m'as dit que « pisser » était un terme médical, » s'insurge Paul. « Il n'empêche que, dans le langage courant, c'est vulgaire. » « Ah, alors il faut être médecin pour avoir le droit de l'utiliser dans le langage courant sans être vulgaire. » Elle le sait peut-être, Julie, que c'est le terme scientifique pour dire qu'on vide sa vessie. Tu en connais beaucoup des filles de 20 ans qui parlent comme ça?
Je ne connais pas beaucoup de filles de 20 ans. Et je me moque de leur langage. Ce qui compte, c'est qu'elles soient pleines de vie et positives, si possible.
C'est pour Irène que tu dis ça?
Peut-être, oui. Elle aurait mieux fait d'être vulgaire, mais heureuse.
Je vais pisser aussi. J'ai le droit de le dire, moi?
Laisse tomber.
Tu veilles sur le petit?
J'ai le choix?
T'as envie de pisser?
Non.
Alors tu n'as pas le choix. À tout de suite. Paul se poste devant les toilettes des femmes et attend Julie pour une proposition des plus décentes. Elle en sort quelques instants plus tard, en se passant rapidement la main dans les cheveux, conséquence probable d'un œil jeté dans le miroir au-dessus des lavabos, témoin d'une coiffure chiffonnée par le sommeil. Faites un saut au rayon des livres. Si vous en trouvez un qui vous attire, prenez-le. Et trouvez aussi un petit quelque chose pour Ludovic. La route sera longue, dit Paul en lui tendant son porte-monnaie. On se retrouve à la voiture. Et Ludovic?
Il est entre de bonnes mains, ne vous inquiétez pas.
Justement?
Justement quoi?
Justement, je m'inquiète des bonnes mains dont vous parlez.
Ne vous inquiétez pas.
Les apparences sont trompeuses dans les deux sens.
Quels deux sens?
Je me comprends. Et maintenant allez-y, la route est longue et les jours de plus en plus courts. J'aimerais arriver en Bretagne avant la nuit. Je crois que c'est déjà fichu, mais bon.
Julie ne s'attarde pas longtemps devant les livres. Elle sait ce qu'elle va prendre pour elle. Le dernier Fred Vargas qu'elle guettait à la bibliothèque pour pouvoir l'emprunter dès qu'il serait référencé. Pour Ludovic, ce sera une histoire de fées et de lutins, comme celles qui ont bercé son enfance. Trop, peut-être. Difficile d'en sortir quand on y croit dur comme fer aux jolis contes de fées. Un jour, on se réveille en prenant conscience que la vie n'est pas si idyllique que ces histoires veulent bien le faire croire. Ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants. Tu parles. Il faudrait déjà réussir à trouver le prince charmant. Dans les jolies histoires, les femmes n'élèvent pas seules leurs enfants. Elles ne triment pas toute la journée pour pouvoir survivre. Dans les jolies histoires, les femmes sont belles, les hommes sont forts, ils s'aiment. Et la vie leur est douce et bienveillante. C'est nul, les contes de fées. Quand Julie rejoint le parking et qu'elle voit l'emplacement où il s'était garé une demi-heure plus tôt vide, son estomac se retourne instantanément. Parce qu'elle est sûre de l'allée, c'était là, juste après l'abri des caddies, face à l'entrée B. Les idées se bousculent dans sa tête à la même vitesse, probablement que dans celle du type qui est en train de mourir et qui voit défiler sa vie. Ils sont partis. Ils ont emmené Lulu. Sa mère aurait eu raison de lui dire que c'était de la folie, mais pourquoi? Pour ce vaste trafic d'enfants vers l'Asie? Pas Lulu! Pas son Lulu! Comment a-t-elle pu faire confiance au premier venu sans voir plus loin que son petit plaisir personnel? Passé l'instant où elle reçoit le coup de poing en plein ventre, Julie se met à courir dans les allées à la recherche du 4x4. Ce n'est pas possible, ce n'est pas possible, ce n'est même pas imaginable! Les salauds! Julie ne respire plus. Elle ne voit même plus les gens autour. Elle n'entend pas les vociférations de la femme qu'elle vient de bousculer et qui a manqué tomber. Retrouver Lulu.
Elle regarde la route en contrebas, cherche un véhicule en fuite. C'était bien organisé à y réfléchir. Ils ont bien joué la comédie. Elle s'est laissée prendre au piège, trop naïve. Alors que faire? Que faire? Julie sent les larmes monter. Il faut qu'elle trouve un téléphone pour appeler Manon. Elle saura, elle, quoi faire. Elle sait toujours quoi faire. Julie s'est retournée et regarde vers le centre commercial en direction de cette place désespérément vide qu'une autre voiture vient combler. Elle sursaute quand on klaxonne derrière elle, se retourne aussitôt. Au volant, Paul lui sourit, soudainement penaud de lire dans ses yeux qu'elle est affolée. Julie aperçoit la silhouette de son fils dans le siège auto. Elle ferme les yeux et manque s'évanouir. Le soulagement laisse instantanément place à la colère et elle claque violemment la portière après être montée dans le véhicule. « Vous étiez où ?» hurle-t-elle. « Calmez-vous, Julie. Nous sommes allés vérifier la pression des pneus à la station-service. J'avais un doute sur un des pneus. »« Ne refaites jamais ça. J'ai eu peur. »« Peur de quoi ?»« Que vous soyez partie. » « Où voulez-vous que nous soyons partis sans vous ?»« Je sais pas. » »« Mais ne refaites jamais ça !» répète Julie en embrassant Lulu, qui lui sourit calmement. « Pourquoi tu quittes maman ?» Le véhicule reprend l'autoroute quelques instants plus tard. Ludovic boit son biberon. Julie a déjà commencé la lecture du roman qu'elle vient d'acheter pour oublier la peur panique qui fait encore battre trop vite son cœur. Jérôme regarde le paysage, impassible, et Paul pense. Il pense à avant, à après, à l'instant. Sa vie passée et ce qu'il en attend encore. Il a besoin de jeunesse et de fantaisie, de bonne humeur et de tendresse. Surtout de tendresse. Déçu par son second mariage, il est resté avec son épouse pour sauver les apparences. Celle-ci n'avait finalement que peu de points communs avec lui. Ses occupations étaient principalement centrées sur son apparence physique, entre l'esthéticienne et le club de sport, les après-midi shopping et les soirées entre copines. Femme au foyer, le salaire de son mari suffisant amplement à faire vivre la famille, elle s'était installée dans cette facilité sans beaucoup de reconnaissance ni d'attention pour son conjoint. Leur conversation était aussi plate et inintéressante que les pages des magazines féminins qu'elle lisait à longueur de journée. Alors que Paul ne rêvait que d'échanger à propos des auteurs de littérature classique et contemporaine dont il se délectait durant ses rares moments de liberté. Les uniques préoccupations de son épouse étaient d'ordre matériel et d'une grande futilité aux yeux de son mari. Il se rend compte aujourd'hui que pendant quelques paires d'années, il s'est enfermé dans son travail pour passer le moins de temps possible à la maison. Surtout à compter du jour où Jérôme a volé de ses propres ailes. Le départ de Marlène est donc un soulagement pour Paul, un nouveau départ aussi, finalement. Il le veut riche et joyeux. Profiter de l'instant présent sans faire de plan sur la comète. Quelle comète? C'était Pauline, sa comète. Elle a changé de trajectoire il y a plus de 30 ans. Elle est à des années-lumière, sa comète. Julie est peut-être bien un simple petit astéroïde avec lequel il est entré en collision. Mais quand le choc est suffisamment intense, parfois, les trajectoires sont déviées. Qui sait? En tout cas, il a au moins une certitude pour la journée qui s'annonce. La route va être longue. Les pauses sont rares. L'enfant est sage, sa mère ingénieuse pour lui trouver des occupations. Il joue à chercher les châteaux d'eau au sommet des collines ou à compter les camions qu'il dépasse sur la voie de droite. Julie raconte des histoires improvisées en fonction du paysage. Parfois, le paysage est morne, en particulier quand les champs s'étendent à perte de vue et que les arbres sont orphelins. Alors, ils se plongent chacun dans leur lecture. Jérôme n'a quasiment pas dit un mot depuis le supermarché. Paul tient le coup. La concentration ne lui a jamais posé problème et il aime conduire. Mais l'heure du repas approche. Le petit réclame à manger, le ventre de Paul aussi. Une hypoglycémie sur l'autoroute ne pardonnerait pas. Une vingtaine de kilomètres plus tard, il enclenche son clignotant et bifurque vers une aire d'autoroute qui indique la présence d'un restaurant. Il est près de 14 heures, il ne devrait pas y avoir grand monde. Jérôme est sorti de la voiture le premier et s'est dirigé vers la pelouse en contrebas du parking. Il regarde l'horizon, étire ses bras et reste ainsi quelques instants, de quoi ruminer tranquille. Julie a fait le tour du véhicule pour détacher son fils. Elle s'énerve sur la fermeture du siège auto qu'elle ne maîtrise pas encore. L'ancien était moins sûr, mais plus simple. Paul la prend par les épaules et l'invite à le laisser faire. Il réussit rapidement à décoincer la ceinture de sécurité et jette un œil à Ludovic. Celui-ci le regarde, puis lui lance un sourire complice. Sourire que Paul reçoit comme un cadeau. Le début de l'apprivoisement. Celui du petit prince pour le renard. Sauf qu'ici, c'est le vieux renard qui essaie d'apprivoiser le petit prince. Peu importe, l'apprivoisement se fait toujours à double sens. C'est sa princesse de mer qu'il aimerait surtout apprivoiser.
« On se tutoie ?»
lui propose-t-il. « Si vous voulez. »
« Ça commence mal. Il me faudra un peu de temps.
Pourquoi ?» s'étonne Paul.
« La différence d'âge ?»
« Décidément. Vous allez me l'envoyer dans les dents encore longtemps, cette différence d'âge ?»«
Vous me vous voyez de nouveau ?»«
Bah, la contrariété, sûrement. »«
Pardon. » »«
Ne t'inquiète pas. Je vais m'y faire. »
Moi aussi.
Paul lui prend alors le visage entre les mains en lui souriant et dépose un baiser sur son front. Julie se raidit à son contact et peine à se détendre. Elle n'a pas l'habitude des élans de tendresse. À part Ludovic à son cou, peu d'approches sont sincères et douces.
« On va d'abord manger, on se dégourdira les jambes après, » suggère Paul.
« Ça me va, je vais aller acheter un sandwich à la station. »
« Tu ne vas rien acheter du tout. » Nous allons au restaurant, nous mangerons chaud et serons mieux installés.
Je n'ai pas d'argent pour le restaurant.
Tu as viré féministe depuis hier?
Je ne veux pas me faire entretenir.
Je ne t'entretiens pas, je vous invite, le petit et toi, et mon fils aussi.
Ça me gêne.
Aucune raison. De l'argent, j'en ai plus qu'il n'en faut pour être heureux. Alors considère que ces vacances sont un cadeau, tout frais payé.
Et qu'en dit votre fils? Demande Julie.
Ton fils.
« Mon fils ?»«
Qu'en dit ton fils ?» rectifie Paul.
« À 3 ans, ça lui passe au-dessus, les histoires d'argent. »«
Je ne parle pas de ton fils, je parle du mien. »«
Je comprends plus rien. »«
Le tutoiement. »« Qu'en dit ton fils ?»«
Ah, alors, qu'en dit Jérôme ?»«
De quoi ?»«
Du cadeau tout frais payé que vous me faites. »«
Je m'en fiche de ce qu'il en dit. »«
Il pourrait être jaloux. »
Il n'a pas de problème d'argent non plus, et cesse de te poser des questions à son propos, conclut Paul.
Il n'est pas très causant, il ne donne pas franchement l'impression de m'apprécier.
Laisse-lui le temps.
Paul appelle son fils pour lui signifier qu'ils sont prêts. Julie donne la main à Ludovic, qui attrape celle de Paul, en se mettant à compter « 1, 2, 3 !» Paul n'a pas besoin d'explication, il soulève le petit en même temps que sa mère, pour le plus grand bonheur de l'enfant. Jérôme les suit à 10 mètres, sans savoir quoi penser de ce trio improbable. Il aimerait parfois ne plus penser. Ça lui éviterait de se souvenir d'Irène. Mais la déconnexion ne fonctionne pas. La déconnexion est impossible, et plus il essaie, moins ça marche. Il espère que le rythme des vagues hypnotisera son esprit, obsédé par le manque d'elle. Après avoir passé l'épreuve du self, des plateaux à transporter tout en s'occupant de Ludovic qui voulait voir ce qu'il y avait dans les assiettes, ils sont attablés. Jérôme reste désespérément silencieux. Il regarde le petit, assis en face de lui. Il en serait presque attendri à l'observer tremper consciencieusement sa frite dans le ketchup et faire ensuite une malheureuse tache sur son t-shirt. « C'est pas grave, »
dit-il calmement à sa maman, sur un ton presque rassurant, avant même qu'elle n'ait pu dire quoi que ce soit. D'autres parents se seraient fâchés, l'auraient grondé pour ne pas avoir fait suffisamment attention, mais Julie ne dit rien. Elle se contente d'essuyer la tache avec sa serviette en lui répondant que non, c'est pas grave. Quand Jérôme était petit, Marlène, la seconde femme de son père, passait son temps à le réprimander quand il se salissait à table, dans l'herbe ou dans la boue. Son enfance était bien bordée, sans surprise et triste. Il n'avait le droit de rien faire qui risque de tacher sa jolie tenue, ce qui, finalement, entacha son sens de la fantaisie. Soudain, il réalise, en observant Julie, que son père ne lui a jamais parlé de sa mère biologique, de ses 3 premières années où elle s'est occupée de lui. Peut-être était-elle douce et indulgente, à l'écoute de ses besoins, complice et joyeuse, comme l'est cette jeune femme avec son petit. Car sous ses airs d'adolescente attardée, Julie montre une indéniable capacité à prendre soin de son fils avec beaucoup de tendresse et de naturel. Peut-être parce qu'elle n'est pas sortie de l'enfance depuis très longtemps, Peut-être parce qu'elle est comme ça, tout simplement.
Et qu'elle se fiche bien d'une tache de ketchup sur un t-shirt. Après tout, la Terre ne s'arrête pas de tourner pour autant. Manquerait plus que ça.
Il ne prononce jamais les R ? Demande Paul entre deux bouchées.
Si, dans certains mots, mais pas tous. Il dit « crouver » pour trouver, mais dit « foie » pour froid.
« Comment tu dis « fa » ? »
enchaîne alors Paul en s'adressant au petit.
« Fa ?» répond Ludovic fièrement.
« Comment tu dis « fi »?»«
Fi !»«
Comment tu dis « foie »?»«
Foie !»«
Comment tu dis « froid »?»«
Chaud !»
Jérôme serait tenté de sourire en observant un tel degré de discernement, voire d'humour, pour un enfant de 3 ans, mais ce serait sortir de sa rumination ce qu'il n'a pas prévu de faire dans l'immédiat. Ce serait beaucoup trop tôt. Il doit soigner les apparences, montrer qu'il existe, qu'il a une opinion et qu'elle est tranchée. Leur présence n'est pas une bonne idée. Alors, il garde son sourire pour l'intérieur des joues et tâche de ne pas se laisser contaminer par les rires des 2 autres adultes qui déteignent rapidement sur l'enfant. Jérôme, sur le point de se laisser aller à un peu de joie, se mord la lèvre et quitte précipitamment la table avec son plateau qu'il dépose sur le chariot près des cuisines.
Vous êtes sûr que je ne devrais pas repartir dans l'autre sens avant de vous pourrir vos vacances ?
Demande alors Julie en reprenant son sérieux.
Je suis sûre que je préférerais que tu me tutoies. Pour Jérôme, laisse-lui le temps. Il a pas mal souffert ces dernières semaines.
Justement, rire lui ferait du bien, suggère Julie.
J'aimerais déjà qu'il puisse pleurer, si seulement il se l'autorisait un peu.
Pourquoi il a souffert ?
Je t'expliquerai. Mais là, il faut qu'on reprenne la route. J'aimerais qu'au moins vous voyiez le coucher du soleil en arrivant.
Le soleil se couche tous les soirs, non ?
Non, c'est le premier soir que c'est le plus beau, surtout quand on n'a jamais vu la mer.
Quelques instants plus tard, le 4x4 reprend la route, chacun à sa place. Ludovic au bord de la sieste, dans son siège flambant neuf, Julie à ses côtés, dans son livre tout aussi flambant neuf, Jérôme le regard collé à la vitre. Rien n'est flambant neuf pour lui, en dehors d'une tristesse tenace et d'un sentiment de solitude insoutenable. Et puis Paul, dans ses pensées joyeuses, il aime l'idée de cette expédition. Il aime se dire qu'il part à l'aventure en Bretagne et n'a rien à envier aux plus grands aventuriers de la Terre. Ce n'est pas de géographie dont il est question dans ce voyage, plutôt des profondeurs humaines et de leurs forêts impénétrables.
Vers 16h30, Paul enclenche à nouveau son clignotant. Une aire d'autoroute aux abords d'Angers. Il aime ce moment.
Il ne reste alors que 3 heures de route avant de pouvoir poser ses yeux sur l'étendue grandiose et apaisante. 3 heures avant de retrouver la petite maison, acquise il y a 30 ans quand il avait beaucoup d'argent à placer. Une petite maison toute simple, qui résiste au temps, contre vents et marées, isolée du reste du village, un peu plus en hauteur que les autres, d'où l'on peut admirer les vagues aux premières lueurs du jour, depuis la porte vitrée de la chambre à coucher. S'il avait été seul, Paul aurait achevé le voyage sans s'arrêter, mais l'enfant, qui s'est tenu tranquille jusque-là, exprime le besoin de se dégourdir les jambes, et Julie d'aller pisser une nouvelle fois. Elle l'emmène avec elle, pour changer la couche qu'elle lui a mise pour le voyage, de peur qu'il souille un siège auto qu'elle n'aurait jamais pu s'offrir. Elle revient à la voiture, munie d'un paquet de gâteaux acheté à la boutique de la station-service, avec la monnaie du billet que Paul lui avait donné pour acheter les livres et qu'il avait voulu qu'elle garde. Jérôme est déjà installé à l'avant. Paul les attend en souriant. La dernière ligne droite est en vue. L'enfant a été calme jusque-là. Cela laisse augurer d'une fin de voyage relativement sereine.
« Vous voulez un gâteau ?» demande Julie en tendant le paquet à Paul.
« Si tu me dis tu, j'en prends un. »«
Tu veux un gâteau ?»«
Tu vois que ce n'est pas si compliqué. »«
C'est vous qui le dites. » »«
Et donc, pour le gâteau ?» Paul en saisit un dans le paquet en lui faisant une grimace. Ce n'est pas gagné. Il s'installe alors au volant et attend que le petit soit harnaché dans son siège pour mettre le moteur en route. Julie prend place à l'arrière et tend le paquet en direction de Jérôme.
« Vous voulez un gâteau ?»«
Non, merci, » répond Jérôme sans la regarder. « J'essaie de faire attention à ce que je mange. »«
Pas moi, » dit la jeune fille, la bouche pleine. « On n'a qu'une vie. Si on ne peut pas se faire plaisir de temps en temps,
« elle n'a pas tort, » ajoute Paul. « Ce n'est pas un BN qui va raccourcir ton espérance de vie. »«
Fiche-moi la paix. Je n'en veux pas, c'est tout. »«
« Je peux prendre le sien ?» demande Paul à la propriétaire du paquet.
« Moi, veux !»
dit Ludovic d'un ton péremptoire. « Si tu demandes gentiment, » reprend sa maman.
« Moi, veux gentiment !»«
S'il te plaît, il faut dire, » ajoute-t-elle. « Prends-en de la graine !» dit Paul à son fils.
« Oui, bon, ça va !» répond le jeune homme, acerbe.
« Détends-toi, Jérôme, je plaisante. Ces vacances te feront vraiment du bien. »
« Je commence à en douter. »
Son téléphone se met alors à sonner.
« Allô ?»
dit Jérôme sur un ton belliqueux.
« Oui, bonjour, enfin, rebonjour, c'est Caroline. »«
Déjà ?» poursuit-il en adoucissant la voix. « Après tout, elle n'y est pour rien. »«
Pardon, pardon, je suis désolée. »«
Je plaisante, que se passe-t-il ? » ?»«
J'ai cassé le tensiomètre. Rassurez-vous, je vais le remplacer, mais je n'aurai pas le temps d'aller en racheter un demain avant la reprise des consultations. »«
Il y en a un dans la remise. »
« Vous êtes au cabinet ?»«
Oui. » »« Radio-guidage. Quand vous entrez dans la pièce, au fond se trouve un grand meuble avec trois colonnes de tiroirs.
Il doit être dans le tiroir tout en bas de la colonne de gauche. »«
Je regarde, » dit-elle en ouvrant le tiroir.
« Il n'y a que des masques chirurgicaux.
Essayez l'autre à gauche. »«
Rassurez-moi, sur vos patients, vous palpez bien le foie à droite et vous écoutez le cœur à gauche. »«
Oui, pourquoi ?»«
Comme ça. Vous l'avez trouvé ?»
Oui, il était dans l'autre tiroir.
Sinon, la première journée s'est bien passée.
Oui, vous aviez raison, des rhumes, des verrues, des otites ou des maux de gorge, rien de bien méchant.
Ah, vous voyez, vous auriez pu dormir cette nuit.
L'embolie pulmonaire fulgurante n'a jamais lieu le premier jour.
C'est censé me rassurer.
C'était censé être drôle.
C'est raté.
Pardon.
C'était inutile. Ça vous rassure si je vous dis que je n'en ai jamais eu et que mon prédécesseur, 35 ans de métier, non plus ?
Un peu. Dites-vous en tous les cas que vous faites votre possible, mais que vous n'empêcherez pas la fatalité. Je sais de quoi je parle.
Je vais essayer. Je vous dérange pas plus longtemps. Bonnes vacances,
dit la jeune femme.
À demain, répond Jérôme. Non, non, je vous promets que je ne vous dérangerai pas tous les jours.
L'embolie pulmonaire fulgurante, c'est généralement le deuxième jour.
Vous n'êtes toujours pas drôle.
Bonne soirée, Caroline.
Le voyage s'achève dans une ambiance plutôt silencieuse. Les deux hommes à l'avant communiquent peu. L'arrière est studieux, le nez plongé dans les livres ou dans des jeux de devinettes au gré des paysages qu'ils voient défiler. La journée a été belle, mais le jour commence doucement à s'effacer quand ils arrivent à Vannes. Il reste moins d'une heure avant de se garer devant la maison. Ils arriveront juste pour le coucher de soleil. De quoi finir le voyage en beauté, pour dissiper les tensions. Quand ils empruntent la route qui longe l'océan, à l'arrière, il n'y a plus un, mais deux enfants, subjugués par le paysage, émus par cette première fois magique, des reflets orangés dans les yeux. Comme les lumières du tunnel le matin, mais en continu, en bien mieux aussi. Loin d'un tunnel, c'est un océan qui s'offre à eux. Quand Paul se gare devant la maison, Julie croit rêver. Elle aperçoit la plage immédiatement à l'arrière et entend déjà le bruit des vagues. Elle détache Ludovic et sourit à Paul avant de disparaître derrière la maison.
« Tu viens avec nous sur la plage ?» demande-t-il à son fils.
« Non, donne-moi les clés. Je vais décharger les bagages. »«
Comme tu veux. Les clés sont dans la cachette, comme d'habitude. »«
Hé, attendez-moi »
crie-t-il à la jeune fille qui marche déjà dans le sable en tenant son fils dans les bras.
« Je ne peux pas !»
répond-elle en riant.
« C'est plus fort que moi !»
Elle s'est immobilisée quand Paul arrive à leur hauteur. Elle regarde l'horizon, son fils dans les bras. Les derniers feux du soleil éclairent leurs deux visages, qui se ressemblent plus que jamais et où se dessine un sourire béat. Un troisième vient les rejoindre, celui de Paul, aux anges, de partager cette joie simple, sachant qu'il en est un peu à l'origine. Elle est loin, l'alarme du supermarché. Ils flânent quelques instants sur la plage, malgré la lumière qui décroît. Le bruit des vagues chante dans la tête de Julie, qui le remercie pour ce beau cadeau. Elle serait presque tentée de lui demander de la pincer. Des moments comme ça, elle en a tellement peu dans sa vie qu'elle a du mal à y croire quand ils arrivent. Puis ils entrent dans cette petite maison de bord de mer qui n'aurait même pas eu sa place dans un des rêves de Julie. Même le plus fou. Jérôme est parti se coucher sans un mot. Il a pris la petite chambre sous le toit pour la tranquillité. Il reste la grande avec un lit double et la minuscule chambre d'amis au lit étroit. Julie commence à y installer ses affaires.
l'habitude de l'exiguïté. Mais Paul les saisit sans un mot et les installe dans la grande pièce.
« Je prendrai la petite, » dit-il en guise d'explication.
« Mais non, on peut se serrer avec Lulu, je connais ça.
Tu rigoles ou quoi ?
Prenez vos aises. Moi, ça me rappellera mes années étudiantes quand je squattais chez des potes et que je pouvais dormir n'importe où.
Comme vous voulez.
Je veux surtout que tu arrêtes de me vouvoyer. Ça balaie instantanément mes souvenirs de jeunesse en me ramenant à notre fameuse différence d'âge.
Tu veux manger quelque chose ?
Non, merci. Lulu est fatiguée, je vais le coucher.
Je fais un feu dans la cheminée si tu veux venir t'y réchauffer un peu. La maison est fraîche quand même.
Je l'endors et je viens.
Ludovic s'est accroché au cou de sa mère. Il lui chuchote dans l'oreille que c'est beau la mer.
Il lui demande s'ils y retourneront demain.
Évidemment qu'ils y retourneront demain.
Il ne pourra pas s'y baigner, mais ils joueront au moins dans le sable.
Il s'endort sans grande difficulté, malgré les heures de sommeil dans la voiture.
Le voyage l'a assommé.
Son visage a gardé le même sourire que sur la plage.
Julie ressent un moment de bonheur assez rare ce soir, dans cette maison, en regardant son fils dormir sous la couette de ce grand lit. Les vagues en berceuse et la plage en diffuseur d'arômes. Ce moment ferait presque oublier tous ceux où elle regrette de faire subir cette vie de merde à un enfant de 3 ans.
La nounou a beau lui dire que le matériel, ce n'est pas ce qui compte, et que Ludovic paraît bien plus heureux que d'autres enfants qui obtiennent tout ce qu'ils veulent,
Julie se sent coupable de lui infliger ses conditions de vie. Elle rejoint ensuite Paul au salon.
Il s'est installé dans le canapé, un verre à la main.
Il regarde les flammes danser dans la cheminée.
« Tu veux boire un verre ?
C'est quoi ?
Une confiture de vieux garçon.
C'est ouvert aux jeunes filles ?
Tu as un tempérament de garçon, tu devrais apprécier. » Faites maison l'année dernière.
Alors je veux bien. Jérôme n'en veut pas ?
Je ne pense pas, il doit déjà dormir. Il dort beaucoup en ce moment.
Alors, c'est quoi son histoire ?
Sa femme s'est suicidée, il y a un peu plus de 3 mois.
Ah !
Dit-elle en enchaînant après un long silence.
Pourquoi ?
Une grave dépression. J'ai toujours connu Irène dépressive. Elle était frêle de corps et d'esprit. Une rafale de vent aurait pu la soulever et la jeter un peu plus loin sans qu'elle puisse lutter. Et les courants d'air émotionnels avaient le même effet sur son cœur. Un mot de trop, un regard un peu mauvais, et elle baissait les yeux sur ses chaussures pour qu'on ne voie pas qu'elle était balayée par la bourrasque comme une feuille d'automne. Voilà. En te parlant d'elle, je comprends exactement ce qu'elle donnait comme impression. Une feuille morte, détachée de sa branche vitale et qui ne reçoit plus la sève.
Pourquoi n'a-t-elle jamais connu que la saison d'automne ?
Ça, je n'en sais rien.
Au gré du vent, elle est tombée dans le jardin de Jérôme.
Je le soupçonne d'être tombé amoureux d'elle avec le sentiment inconscient qu'il pourrait la sauver. Son âme de médecin.
Ce jour-là, il est arrivé trop tard. À quelques minutes près, elle aurait été encore vivante. Il s'en veut. Il discutait sur le perron avec un de ses patients et puis il a entendu le coup de feu.
Elle s'est tirée une balle. C'est horrible.
Je ne te le fais pas dire.
D'où venait cette arme ?
Un vieux pistolet de son grand-père, Deuxième Guerre mondiale. Jérôme ne se doutait pas qu'elle savait s'en servir.
Voilà.
Il a donc besoin d'un peu de temps pour s'habituer à toi, aux autres en général. Je l'ai invité ici pour qu'il prenne un peu l'air avant de se replonger dans son travail. Il ne sort pas de son marasme et va de plus en plus mal. Ça m'inquiète.
Je peux comprendre. Je vais lui foutre la paix. Il finira bien par m'accepter.
Il finira bien. Tu sais, ce n'est pas un mauvais garçon. Il lui faut juste un peu de temps, lâcher du lest, et ça reviendra. Il n'a jamais été un clown dans la vie non plus, mais il sait être agréable.
Il n'a pas d'enfant ?
Non, ils n'ont pas eu le temps d'en faire. C'est peut-être mieux, ajoute Paul, un orphelin si jeune.
D'un autre côté, ça l'aurait tiré vers le haut.
Prête-lui Ludovic pour l'attraction verticale. Je suis sûre que ce petit est très efficace.
Il ne peut pas relever tout le monde non plus du haut de ses 3 ans.
Pourquoi ? Il tire qui d'autre vers le haut ?
Moi. Il m'aide à me lever le matin, à supporter mon travail, à espérer des jours meilleurs.
Tu n'es pas heureuse ?
Je ne suis pas non plus malheureuse. Je suis surtout fatiguée.
Je vais me coucher. Annonce Julie.
C'est pour ne pas me parler de tes états d'âme. À demain.
Explique-moi quand même quelque chose. Le doudou de ton fils, c'est quoi exactement?
C'est un de mes anciens gogos, répond Julie en souriant.
Un gogo?
Un soutien-gorge? D'allaitement. Il l'a chippé un soir dans le linge au pied de la machine alors qu'il rampait à peine et a voulu dormir avec lui. Il sentait le lait. Il n'a plus quitté depuis. J'ai quand même coupé les bretelles parce qu'elle se prenait dans tout ce qui dépassait et que comme ça, ça ressemblait un peu moins à un soutien-gorge. Je suis passée pour une givrée à la maternelle il y a un mois. Et la directrice un peu psychorigide m'a convoquée pour me faire tout un laïus sur ce doudou peu conventionnel.
« J'ai jamais vu ça, et pourquoi pas une culotte ?» qu'elle m'a dit.
Elle n'avait pas tout à fait tort. Tu lui as répondu quoi?
Qu'il aimait l'odeur de mon lait et que je commencerais à m'inquiéter s'il piquait le soutien-gorge de l'aide maternelle, mais que pour l'instant, il n'y avait pas lieu d'en faire un plat. D'autant qu'à force de le rafistoler, il s'éloigne doucement de sa forme d'origine.
Alors, dans la boîte à doudou, à l'entrée de la classe, il y a des peluches en tout genre et un soutien-gorge d'allaitement qui ne ressemble plus à grand-chose d'ailleurs.
Jérôme, c'était les chatounes quand il était petit.
Les quoi?
Les chatounes, il appelait ça comme ça. Des morceaux de mousse jaune en synthétique pour rembourrer les coussins. Il en avait toujours quelques-unes sur lui et il les triturait dans sa main en suçant son pouce.
Aussi bizarre qu'un gogo.
Moins évocateur quand même. Un jour, il devait avoir 6 ans, nous avions loué un gîte en montagne, et dans l'une des chambres, il y avait un matelas mousse posé contre le mur sans protège-matelas. Il était fait dans la même matière que ces petites chatounes de rembourrage. Il est resté béat d'admiration en s'exclamant
« Oh, une chatoune géante !»
Et Marlène trouvait encore des petites chatounes dans les poches de ses jeans en faisant la lessive quand il avait 15 ans.
Une longue histoire, les chatounes.
On se rassure comme on peut, dit Julie en partant se coucher.
Paul se resserre un fond de verre. Sa confiture de vieux garçon est vraiment délicieuse. Elle a d'autant plus de saveur qu'il est vraiment vieux garçon maintenant, des années au compteur et le célibat récent.
Au moins, Marlène ne viendra pas par-dessus son épaule lui suggérer d'arrêter de boire. Ce n'est pas elle qui aurait partagé ainsi un verre devant le feu pour profiter du moment.
Cette gamine a ce côté pétillant qui manque à sa morne vie d'homme sérieux depuis plus de 30 ans.
Elle a pourtant l'air d'en tirer des casseroles. Mais elle est encore capable de s'émerveiller d'un coucher de soleil sur la plage. C'est bon signe.
Elle est d'un autre genre que sa regrettée Pauline. D'un tout autre genre.
Pauline était classe, gracieuse et discrète.
Julie est presque vulgaire, un peu garçonne et affirmée. Mais il y a chez elle ce truc en plus qu'ont certaines personnes. L'incandescence. Cette chose qui réchauffe et fait vibrer à la fois.
Irène était déjà éteinte avant de mourir.
S'était-elle seulement embrasée une fois?
Marlène était émotionnellement froide comme la banquise, sans même pouvoir espérer le moindre réchauffement, même avec un trou plus gros que la couche d'ozone tout entière. Mais Julie...
Le psy de quartier dirait que Paul fait un transfert, qu'il retrouve en Julie ce qu'il a perdu avec Pauline, que c'est probablement une mauvaise idée, c'est d'ailleurs l'avis de son fils. Mais Paul n'a envie que d'une chose aujourd'hui. Après toutes ces années à bosser comme un dingue sans voir passer la vie, c'est de se mettre au bord du chemin et faire un bon feu de bois pour se réchauffer.
Pensez-moi, je rêve. Un rêve de princesse, comme quand j'étais petite et que je croyais au prince charmant.
Celui qui se présente aujourd'hui, c'est un vieux roi, mais il m'offre le joli conte qui va avec. Et de la confiture de vieux garçon qui me fait tourner la tête. J'ai hâte d'être à demain pour retourner voir la mer avec Lulu. Et ce n'est pas que pour lui. Mes pieds à moi ont aussi apprécié la texture du sable, mes yeux, l'horizon à perte de vue, mes oreilles, le chant des vagues.
Je suis qui? Peau d'âne? Avec un homme qui pourrait être mon père? Cendrillon? J'aurai l'air bête dans le sable demain avec des pantoufles de verre.
Je vais tâcher de ne pas être le petit chaperon rouge et me faire bouffer par le loup. Le loup, je l'ai trop vu celui-là. Maintenant, j'ai juste envie de revoir la mer.
J'espère que Lulu n'aura pas froid cette nuit. J'ai rajouté une couverture, mais je veux que la fenêtre reste ouverte. Le bruit des vagues fait un bien fou. Ce rythme lent et régulier qui fait oublier l'agitation des hommes. Je suis quoi face à l'océan? Je suis quoi sur cette terre? Un grain de sable, comme tous les autres, avec des grains qui écrasent ceux d'en dessous et les empêchent de respirer.
Si Lulu a froid, il se collera à moi instinctivement. Je sentirai sa peau toute douce. Je me bercerai dans sa respiration. Je suis sûre qu'elle sera en phase avec le bruit des vagues. Parce que c'est comme la vie. On cherche l'harmonie pour se faire du bien et pour supporter d'être les grains qui étouffent sous les autres.